cet enchaînement, cette chaîne de conditionnement, s'appuie sur la notion d'un agent. Et si cette notion d'un agent disparaît, par exemple dans la relation du non-soir, on va voir qu'à ce moment-là, cette chaîne de conditionnement, elle est à l'arrêt, comme un moteur débrayé, désengagé. Les roues comme ça d'un moteur qui sont désengagées, et à ce moment-là, cette chaîne de conditionnement ne circule plus, ne tourne plus. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe plus rien dans la vie, mais que ce qui se passe n'est plus conditionné. Donc le cycle de conditionnement cesse. Une petite nuance, parce qu'il y a encore un corps, qui a besoin de se nourrir, mais enfin, le cycle de conditionnement cesse, mais pas la vie. Que la vie cesse à ce moment-là, quand on aurait réalisé le non-soi, alors on se dépêcherait vite d'essayer d'en créer un bien solide. La vie, évidemment, n'est pas un objectif recevable. Mais cette représentation, cette explication de l'interdépendance est difficile à comprendre. Dans un sutra, Ananda, le fidèle disciple du Bouddha, le servant du Bouddha, se vante d'avoir bien compris la chaîne de l'interdépendance. Et le Bouddha le reprend, et lui dit, ne dis pas ça, Ananda, il est difficile de bien comprendre l'interdépendance. Il dit, ne te vante pas trop vite de l'avoir bien compris. Donc cette chaîne d'interdépendance, on en parle parfois dans les enseignements bouddhistes parce que c'est quelque chose d'important. Mais j'ai souvent l'impression, pour avoir entendu des enseignements d'occidentaux, surtout parce que j'ai pris les notes de l'enseignement de Geshe Rabden que j'avais reçu il y a bien longtemps, j'ai eu la chance de retrouver les notes. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup plus de précision là. On évite un petit peu moins les difficultés sans que tout soit clair. Mais pour moi, quand j'entendais ou je réfléchissais sur cette chaîne de conditionnement, il y avait quelque chose qui était problématique, c'est justement qui décide. Alors, cet enchaînement, il y a ceci, ben voilà, il y a le corps, il y a l'esprit, il y a une expérience qui surgit parce qu'on voit quelque chose, parce qu'on entend quelque chose, parce qu'on goûte quelque chose, voilà, c'est agréable, le désir surgit, on va agir, on agit, donc à ce moment-là, on accumule du karma. Mais tout a l'air tellement bien huilé dans cette histoire qu'on se demandait, ben, dans le fond, où est le choix ? J'ai quand même l'impression, dans la vie quotidienne, qu'il y a des choix. Donc cette explication presque trop bien polie, dans le fond, pour moi, laissait toujours un problème en disant, mais dans le fond, qui est-ce qui choisit? S'il n'y a pas de moi, qu'est-ce qui choisit dans cette histoire? Ou alors, c'est une sorte de causalité tellement simple qu'il n'y a pas d'alternative, ça suit un processus, donc à ce moment-là, il n'y a aucune liberté possible. C'est tellement bien huilé que ça va tourner sans cesse. Donc, où est cette possibilité de faire un choix et peut-être de désengager cette chaîne de conditionnement? C'est pas très simple à expliquer, mais c'est pas très simple à comprendre. On va quand même essayer de trouver des pistes pour essayer de comprendre comment ça pourrait jouer. Je donne un exemple que j'ai déjà pris plusieurs reprises. Si voilà, on est dans une retraite et on fait la queue pour manger, et puis voilà, je suis l'avant-dernière personne, et puis c'est le dessert, il reste une tranche de gâteau au chocolat que j'aime bien, etc. Et alors là, qu'est-ce qui se passe en moi? Ben, il y a le désir. J'avais décidé d'être un petit peu plus rigoureux en prenant moins de sucre, mais ça a l'air vraiment bon. Il y a le désir, là, et puis il y a aussi la raison qui dit non, tu vois, ça ne va pas, il faut que tu arrêtes le sucre, c'est la raison qui vient s'opposer au désir, et puis une autre réflexion, ah oui, c'est la dernière tranche, j'ai dit, mais enfin, je ferais mieux quand même, ça serait bien que je laisse cette tranche-là pour la personne, la dernière personne qui n'en aura pas. Et là, bien, on est devant un choix. Bien. Le désir, la raison, et puis la compassion, la générosité. Qu'est-ce qui va gagner? Qu'est-ce qui fait que je vais choisir ceci plutôt que cela? D'ailleurs, ce n'est pas dit que tous les jours je fasse le même choix. C'est quand même assez étonnant. Il faut arriver à rendre compte de ceci. Si l'enchaînement est trop bien structuré, alors à ce moment-là, il n'y a pas de choix, il y a ceci, cela, etc. Et donc, pour moi, c'était un problème pendant longtemps. Il me demandait d'enseigner la chaîne d'interdépendance. Et puis, moi, je n'avais pas envie, parce que si je ne comprends pas avec ces domaines de flou, ça n'était pas possible. Je peux parler de choses que je comprends pas mal, mais quand vraiment il y a des points essentiels qui ne sont pas résolus, alors évidemment, je ne peux pas en parler. Et puis, j'ai trouvé un éclaircissement, une possibilité de solution en lisant un texte de Nietzsche, plusieurs textes parce qu'ils parlent des mêmes choses. Et on reviendra sur, pour moi, ce qu'il a tout d'un coup apporté, qui m'a ouvert la possibilité peut-être de comprendre ceci. Donc il faut comprendre que cet enchaînement, on verra de différents éléments, c'est pas un enchaînement linéaire, mais c'est des choses qui se tiennent ensemble, qui se soutiennent. L'exemple qui est donné, c'est comme si on prenait trois germes de blé, alors on les appuie les unes contre les autres, eh bien, si on en enlève une, tout tombe. Eh bien, ces éléments de cette chaîne de conditionnement, ils se soutiennent les uns les autres. Alors, il y a aussi, sur l'évolution causale, par moment, on peut l'expliquer aussi de manière causale, mais quand même, ils se soutiennent. Donc, on ne peut pas dire si le premier chaînon, c'est l'ignorance, le deuxième, c'est les formations, les compositions, bon, il y a les compositions karmiques, et le troisième, c'est la conscience. Mais ce n'est pas quelque chose qui est linéaire, que l'ignorance forme les compositions karmiques qui va former la conscience. C'est que ces trois-là, même plus, ces trois-là forment un ensemble. Il y a l'ignorance, mais cette ignorance, elle est dans un contexte qui est un contexte de conditionnement. Et ce conditionnement, évidemment, à ce moment-là, il est dans un moment de conscience. Donc, briser cette sorte d'enchaînement linéaire, parce qu'à ce moment-là, ça ne veut plus dire grand-chose. Ça peut être expliqué de diverses manières. En un instant, puisque qu'en un instant, tout ceci est là, présent dans le conditionnement de ce qui se passe dans cet instant. Et puis, il y a d'autres commentaires qui t'expliquent en deux vies, en trois vies. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse, c'est de voir, pour moi, cette question de s'il n'y a pas de moi, qu'est-ce qui choisit, qu'est-ce qui décide, parce que ça me semble être le point quand même le plus important. On a donc cette explication en 12 liens. À nouveau, c'est ce qui se passe, ce qui est décrit autour de la roue de la vie. Je vous montrerai quelques représentations par la suite. 12 liens, ça semble être l'explication la plus tardive. Dans les textes plus anciens, quelquefois on trouve 6 liens, quelquefois on trouve 9 liens. Il semble qu'on n'a pas toujours voulu mettre tous ces liens ensemble. Peut-être aussi parce que il y avait certaines articulations qui n'étaient pas si simples. Donc, peut-être qu'il faudrait les voir d'une certaine manière, ces chaînes de conditionnement, j'enchaîne, on a l'impression qu'il y a un enchaînement, mais plutôt comme un diamant. On parlerait de différentes facettes. Il parlerait d'une facette qui serait l'ignorance, les formations karmiques, qui serait la conscience, qui serait le contact, etc. Donc, on verrait un phénomène global, mais on l'aborderait sous différents angles. Et donc c'est vrai qu'il y a des éléments qui semblent bien être dans une sorte de causalité temporelle. Mais quand même, je crois que c'est bien d'imaginer, de chercher une explication qui montre plutôt les facettes de ce conditionnement plutôt qu'une sorte de succession rigide. Je vous donne ces 12 liens. Et puis, à la pause. Et autre, je vous mettrai un tableau, donc je n'ai pas besoin de vous battre pour prendre des notes. Je mettrai un tableau sur l'écran, vous pourrez les copier simplement. Mais là, je vais vous les citer pour qu'on sache de quoi je parle quand même. Donc, je vais les citer, puis ensuite je reviendrai un petit peu sur le contexte. Donc, le premier chaîne qui est décrit, le premier élément, c'est l'ignorance. Le deuxième, c'est formation karmique, conditionnement psychologique. Le troisième, c'est la conscience. Et la conscience qui, évidemment, la conscience qui, cet instant de conscience qui est formé par l'ignorance, est le conditionnement psychologique. Ensuite, on a ceci surgit aussi dans un contexte d'un corps et d'un esprit. Pas quelque chose d'abstrait, l'ignorance n'est pas là. Elle n'est pas là, évidemment, dans l'air. Elle est incarnée dans un corps et un esprit. C'est ce conditionnement karmique, cette ignorance, sont là, manifestes dans un corps et esprit. Le corps et esprit veut aussi dire qu'il y a des organes sensoriels, voir, entendre, toucher, etc., goûter, et puis aussi possible de penser. L'organe mental, cette capacité aussi à penser. Donc voilà, il n'y a pas un corps-esprit abstraitement, il y a aussi un corps-esprit constitué, et quand ceci est constitué, on a là la possibilité d'un contact avec le corps-esprit, les organes sensoriels, mais tout d'un coup, il y a un moyen de contact visuel, autour de vous, auditif si vous m'écoutez, là on entend des sons ou d'autres bruits, là il y a le contact évidemment corporel, sentant le contact avec l'endroit où vous êtes assis, etc. Donc il y a les cinq sens, le contact donne accès aux cinq sens et puis aussi à une réflexion, ceci ou cela. Donc ça c'est la sphère du contact. Contact c'est le fait d'être en contact avec le monde. Le texte dit, c'est la réunion de trois choses. On a l'organe sensoriel, on a l'attention, et puis on a l'objet. Qu'il y ait contact. Pour qu'il y ait contact, il faut que mon attention soit vers la vision. Je veux voir là, il y avait tous les coussins de méditation, là, vide, parce que évidemment je suis un peu seul dans cette salle de méditation, c'est comme ça. Dans la mesure où je parle, je regarde mes notes, même si je vois ces coussins, dans le fond, je ne les perçois pas vraiment parce que je n'ai pas l'intention de les voir. Je suis plus peut-être dans la pensée de ce que j'essaie de vous dire. Si maintenant, je porte mon attention sur les coussins, dans la mesure où j'ai les yeux ouverts, les yeux fonctionnent, et puis qu'il y a des coussins, donc à ce moment-là, la réunion de ces trois est ce qu'on appelle le contact. Le contact est la réunion de quelque chose, ce n'est pas juste une sorte de contact physique, mais ça dépend aussi de l'attention. Donc il y a contact, puis dès qu'il y a contact, eh bien, ce contact, il est vécu, il est éprouvé d'une certaine manière, agréable ou désagréable. Il a un impact sur nous-mêmes. Ce n'est pas quelque chose de pure abstraction. Nous sommes touchés par le monde. Heureusement. Sommes touchés par le monde, il nous affecte agréablement, désagréablement, neutre. Ça, c'est, voilà, c'est ce qu'on appelle la sensation affective, vous avez évidemment déjà entendu parler. Et il y a une réaction à cette sensation affective. Il peut y avoir le désir, mais l'attachement ou l'aversion. Ouais, résumer ceci en parlant des trois, soif de plaisir sensoriel, soif d'existence et soif de mon existence, pour relier ça au texte habituel. Et lorsque surgit la soif, le désir, l'aversion, il va y avoir appropriation, on pourrait dire qu'il va y avoir, ceci est une impulsion à agir. Voilà, je reviens à mon histoire de gâteau, j'ai vu le gâteau, j'avais les yeux ouverts, etc., j'avais l'attention sur ce qu'il y avait sur la table, une sensation agréable, et puis tout d'un coup, le désir, la soif de plaisir sensoriel, ah, ça doit être drôlement bon. Et puis ce lien-là, maintenant, le neuvième lien, l'appropriation, à ce moment-là vient l'intention de prendre ce morceau de gâteau. Prendre ce morceau de gâteau et qui, évidemment, va avoir une implication qu'on appelle devenir, ceci crée déjà une habitude de prendre le morceau de gâteau sans réfléchir. Et ce devenir va donner naissance, et c'est mort, il va engager, il va m'engager plus loin dans la vie, puisque je réagis par ce conditionnement, sans liberté, moi je veux plus de bateau, etc. Et ça me maintient dans le cycle des naissances, vieillesse et mort. Donc ça a l'air quand même drôlement bien huilé, tout ça. Là, il y a le morceau de gâteau, elle va dire, ben voilà, quand il y a une sensation affective agréable, super, ça m'a l'air assez plaisant de voir ce morceau de gâteau. Mais qu'est-ce qui fait maintenant que je vais, le lien suivant, que je vais prendre ou non? Qu'est-ce qui va ici, qu'est-ce qui va décider là, dans le fond de l'action? On pourrait dire qu'avant, on est dans quelque chose qui n'est pas de l'ordre de quelque chose de volontaire, pour utiliser ce terme. Voilà, les éléments sont mis en place. Là, il y a la perception, si on a les yeux ouverts et autres, regarde à gauche, à droite, il y a quand même le contact qui surgit. La sensation affective, on ne la choisit pas. Je veux que ce soit agréable, je veux que ça soit désagréable. Même si, évidemment, c'est conditionné, il y a des gens qui ont horreur des choses sucrées. Elles ne vont pas du tout avoir la même réaction. Donc, il y a aussi un conditionnement. Néanmoins, là, ce n'est pas là que se passent les choix. Il y a cette sensation agréable. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qui va faire que je vais choisir et autre, surtout s'il n'y a pas de moi? Est-ce que ça va être le hasard, les astres, ou je ne sais pas, qui vont faire que tout d'un coup, on agit dans un sens ou dans l'autre? Dans un sens ou dans l'autre, qui va nous maintenir alors dans ce cycle des naissances et des morts? C'est un problème, hein. C'est pas si simple que ça. Comme je l'ai dit, souvent on trouvait que c'était tellement bien huilé, tout cet ensemble, en me disant, ben moi je vois pas du tout où est la possibilité d'un choix. Je me souviens une fois, alors que j'allais traduire pour Geshe Rinpoche, depuis mon pèlerin à Genève, monté dans la voiture avec lui, et je lui ai posé cette question dans la voiture en disant, enfin, où est-ce qu'il y a le choix, où est-ce qu'il y a la possibilité d'une ouverture de liberté dans cet enchaînement? Et je n'ai pas compris ce qu'il m'a répondu, je suis désolé pour vous, mais voilà, d'abord c'était peut-être pas le meilleur endroit dans la voiture, mais voilà, il m'a dit qu'il y avait quand même une liberté, ça je sais, enfin, il était obligé parce qu'autrement tout s'écroulait, mais quant à savoir comment, je n'ai pas compris. Parce que d'abord je crois que c'est pas si simple. Donc, on est vraiment, pour moi, dans ce questionnement, s'il n'y a pas de moi, qui est-ce qui décide, qui est-ce qui oriente la vie d'une certaine manière ou d'une autre? Pour revenir sur le premier lien qui s'appelle l'ignorance, eh bien, il y a différents points de vue sur l'ignorance. Certains disent que c'est l'ignorance des quatre nobles vérités, mais ça paraît quand même un petit peu des slogans politiques. Je vais revenir les quatre nobles vérités. Je crois que c'est pas convaincant, mais là, il y a ces enseignements de Geshe Rinpoche et d'autres, d'ailleurs. Beaucoup de maîtres de la tradition, en tout cas du bouddhisme tardif, peut-être même du bouddhisme le plus ancien, une place. C'est l'ignorance qui concerne la notion du moi qui est à l'origine de ceci. Et ça, on comprend bien. C'est dans la mesure où il y a une confusion par rapport au moi que tout cet enchaînement, il se déroule justement de manière conditionnée. Donc nous avons vu, si on parle de la confusion par rapport au moi, on va revenir sur cette distinction parce qu'on en parlera, je pense, cet après-midi, qu'il y a un moi inné, la forme la plus simple, la plus légère, qui est « je, moi, de position bah, », c'est ce jeu de convention, dans le fond, « je, tu ». Ce « je, tu », c'est simplement « toi et moi », cette notion innée. Et puis, il y a deuxième niveau, imaginaire, fictionnel, qui fait qu'on raconte une histoire, ce « moi », il n'est pas juste « je, tu », de position, il est un mois qui a une histoire, qu'il se passe plein de choses. Donc ça, c'est le deuxième niveau. Le niveau le moins profond, si on veut, et c'est celui qui est éliminé tout d'abord dans le cheminement méditatif, et plus tard, c'est le deuxième niveau inné qui sera éliminé. Non, c'est assez dense, ce truc sur la chaîne du conditionnement. Si on simplifie, ça ne voudra plus rien dire. On va continuer un petit peu, si vous êtes d'accord, à essayer de donner sens à tout ceci. Bon, le lien de l'ignorance, le premier lien, le premier aspect, il est neutre moralement. Ce n'est pas quelque chose qui est négatif ou positif, il est neutre. Pourquoi ? Parce que basé sur la notion de moi-je, ceci peut amener aussi à des choix qui sont des choix vertueux. Je pourrais très bien m'appuyer sur moi-je, et puis j'ai une sorte d'idéal de sainteté, etc. Ce qui fait que je suis généreux, ouvert, mais parce que je m'attache à une image d'un moi-je qui devrait soit être parfait, ou généreux, et autre. Donc il y a bien une confusion, parce que c'est basé sur la notion du moi. Et pourtant là, ça mène à des actions vertueuses. Ça, c'est important. Il est neutre, il amène à des actions vertueuses. Donc, s'il amène à des actions non vertueuses, voilà, je pique le morceau de gâteau à l'autre personne, alors qu'elle était avant moi dans ma queue, pas très bien, bien neutre, voilà, ben, j'attends ce qui se passe, puis finalement, il n'y en avait plus, je peux plus rien faire. C'est important parce que ces actions vertueuses, dans la voie du karma, là, ces actions vertueuses qui sont basées sur la notion du moi, elles vont amener quelque chose de positif, mais elles nous maintiennent dans le conditionnement. C'est pas que cette chaîne a ce conditionnement, il sera un petit peu plus léger, un petit peu plus sympa, mais toute action vertueuse, quelle qu'elle soit, aussi vertueuse qu'elle soit, si elle s'appuie sur la notion de moi-je, elle reste dans cet enchaînement. Ne peut pas en sortir. La seule manière de se libérer de cet enchaînement, c'est d'éliminer l'ignorance, premier chaînon, si vous voulez, l'ignorance par rapport au moi-je. Et si ce moi-je est démystifié, décrédibilisé, à ce moment-là, cette chaîne n'agit plus. J'ai dit, c'est comme un moteur désengagé, débrouillé. Donc, les actions vertueuses, basées sur un moi-je, elles maintiennent dans le conditionnement. On trouve de nombreuses réflexions là-dessus, surtout dans les textes du Chan, du Zen, pour montrer que même les actions vertueuses, elles nous maintiennent dans le samsara, pour parler de cette manière-là, si elles sont basées sur la notion de moi-je. Voilà, je vous donne une deux citations de Nietzsche, je ne vais pas vous en donner trop, mais parce qu'il s'est posé exactement les mêmes questions. C'est qui l'agent de la vie? Il se rend compte qu'il y a là une sorte de confusion. Voilà ce qu'il dit. C'est une présupposition non fondée que chaque action relève d'un agent. Présupposition également soutenue et incarnée par la grammaire du sujet du prédicat. Le langage nous enferme. Il y a un sujet et un verbe. Donc il y a une sorte d'action. Je marche, comme si la marche était séparée. Il y a un je et puis qui agit la marche. Donc il dit qu'on est enfermé dans le langage, qui serait une sorte de conditionnement peut-être dans le deuxième maillon, qui fait qu'à ce moment-là, immédiatement, on cherche un agent qui agirait ce qui se passe. Voilà ce qu'il nous dit. Donc, un tel substrat, un tel agent n'existe pas. Il n'existe pas d'être derrière l'action, l'effet, le devenir. L'agent n'est qu'ajouté à l'action. Il dit, mais l'action, c'est tout. C'est exactement ce que nous explorons dans la méditation en mouvement, dans la présence à tous les gestes, etc. C'est pour découvrir, au fond, que l'action est tout, pour employer ce langage, mais qu'il n'y a pas besoin d'avoir un agent derrière, un agent qui doit faire la marche, comme on montre de marionnette qui agirait. Donc, dans l'unité de l'expérience méditative, dans cette présence-là, à ce moment-là, on réalise que l'action est tout. Ce terme-là, notamment pour rester un petit peu en accord avec ce que dit Nietzsche, mais qu'il n'y a pas d'agent derrière. À un moment donné, il dit aussi de croire que penser nécessite un je derrière, je pense, il dit ça, c'est une. C'est loin d'être assuré. Il dit c'est d'une naïveté immense que de croire que derrière la pensée, il doit y avoir un je qui pense. Il dit, même si on disait ça pense pour éliminer peut-être ce qu'il y aurait de trop personnel, on croit encore qu'il y a un ça qui doit penser. Alors que la pensée, elle se suffit elle-même. La pensée, c'est ce qui surgit. Là, évidemment, on est très proche du bouddhisme. Il y a une manière de s'exprimer de Joseph Goldstein qui disait le penseur, c'est la pensée. Il n'y a pas de penseur séparé de la pensée, il y a juste la pensée qui surgit. Et ce qui m'intéresse là, ou m'interpelle, c'est que Nietzsche met exactement le point là-dessus. Il dit que c'est la grammaire qui nous enferme, la convention. Je pense ou ça pense, il faut qu'il y ait un agent derrière la pensée. Et on verra, c'est dans un autre domaine qui me semble plus important, plus intéressant. Donc, qu'est-ce qui fait que dans une certaine situation, nous allons choisir ou croire choisir ceci plutôt que cela? Dans la chaîne, comme je l'ai décrite de manière un peu rudimentaire, mais quand même c'est la manière assez traditionnelle, ce qui est un peu problématique, c'est qu'on ne voit pas où il y a un choix. Il y a ceci, cela, il y a un enchaînement. Voilà, il y a la sensation, elle en a agréable, et puis c'est suivi par le désir et l'appropriation. Pour un autre exemple, sensation désagréable, l'aversion et puis le rejet. Là, c'est très bien, mais on sait que j'ai pu choisir, moi, dans cette histoire-là, où est-ce que ce processus que je suis a pu choisir, là, de toute façon, ça restera problématique, mais où est-ce que ça a pu choisir dans ce contexte-là. Et c'est là que cette réflexion de Nietzsche m'a semblé éclairante, et je vous la donne. Il dit au contraire, l'ego est une pluralité de forces, dont tantôt l'une, tantôt l'autre, passe au premier plan en qualité d'ego. Nous faisons instinctivement de l'élément dominant tout l'ego. Voilà ce qu'il veut dire. Pas seulement sur cette phrase, mais sur d'autres choses. Ce qu'il veut dire, c'est que dans le fond, il y a en nous-mêmes différentes forces. Alors, on a vu avant avec l'histoire du gâteau, il y a le désir, il y a la raison, il y a la moralité, il peut y avoir beaucoup de différentes forces. Et ce qu'il dit, c'est que ces forces, d'une certaine manière, elles sont là, en jeu, dans une situation. Il y a le désir, la raison, la moralité, on imagine d'autres choses, l'aversion pour quelque chose. Et elles sont, dans le fond, elles sont en compétition. Qu'est-ce qui va gagner? Qu'est-ce qui va faire que dans cette situation-là, nous allons choisir ceci plutôt que cela? Pour qu'il y ait un choix, il faut qu'il y ait différentes possibilités. S'il y a juste sensation affective agréable, désir, appropriation, on ne voit pas où il y avait une alternative, en tout cas, qui impliquait un choix. Et maintenant, ce qu'il décrit, ça semble intéressant, c'est qu'il dit qu'en nous-mêmes, on a beaucoup de tendances différentes. Et ça, je crois que ce n'est pas tellement difficile à s'en rendre compte. Et que dans le fond, la plus forte, c'est celle qu'on va prendre pour moi. On va s'identifier à la plus forte. Si le désir est plus fort, je veux le gâteau. Si la raison est plus forte, je ne le prendrai pas. Si l'éthique est la plus forte, je le laisse pour mon voisin. Et alors, vous voyez, c'est ces forces qui vont déterminer, dans le fond, le cours de l'action, et je vais m'identifier à ceci. Je vais croire que j'ai choisi simplement parce que je, c'est l'impulsion la plus forte qui domine, qui va prendre la direction, mais pour me donner l'impression de choisir volontairement, l'ego, le moi-je, il se fixe. L'esprit s'identifie à l'élément le plus fort. Donc là, on a l'impression qu'il y a quand même des éléments en compétition qui permettent déjà un choix. Mais évidemment, tout n'est pas résolu pour autant. C'est super, on a ces éléments-là qui nous permettent de choisir, mais dans le fond, si c'est toujours le même élément qui est le plus fort, le désir, comme on dit, ou la raison ou l'autre, eh bien, finalement, qu'est-ce qui fait que l'élément le plus fort sera celui-ci ou celui-là? Qu'est-ce qui fait qu'un élément sera le plus fort? C'est toujours le désir, la gourmandise qui va gagner, ou la raison, ou l'intuition. Maintenant, il faudra bien déterminer que c'est le plus fort qui va déterminer le cours de l'action. Donc là, on retombe dans quelque chose qui a l'air conditionné. C'est un petit peu plus riche comme possibilité, mais c'est conditionné. Et on pourrait dire que notre chemin spirituel, qu'est-ce qu'il vise? Dans le fond, il vise à renforcer certaines attitudes et à amoindrir d'autres. Dans le chemin spirituel, on va viser à solidifier, peut-être, affermir, donner plus d'énergie à la générosité, plutôt qu'à la gourmandise, plutôt qu'à la raison. Donc le chemin spirituel, il serait justement, il s'agirait de renforcer certains éléments qui permettent de faire des choix qui sont judicieux et qui permettent d'amoindrir les choix qui ne sont pas judicieux. Donc là, on est déjà, on voit comment le chemin spirituel va avoir un impact, pas parce que tout d'un coup ça va être une liberté totale à ce niveau-là, et parce qu'il va renforcer les éléments qui vont dans le bon sens. Et on se rend compte que ce qu'il peut y avoir d'égoïste dans, je vais prendre mon saut de gâteau parce que je suis sous l'aspect du désir, ou la notion d'identification, moi je veux ceci, est beaucoup plus forte que dans ça me fait plaisir de laisser pour la personne derrière. Et donc là, il y a aussi un choix qui marque un ego moins fort, ou plus d'identification. Donc en développant ces qualités qu'on appelle les paramis, quelle que soit la manière dont on les appelle, on est déjà en train d'amoindrir ces éléments qui semblent dominants dans ce conditionnement pour ouvrir d'autres éléments qui s'appuient beaucoup moins sur l'identification « moi je veux ceci », mais plutôt la compassion, la bienveillance, etc., qui sont des attitudes beaucoup plus ouvertes. Et puis il s'agira dans ces qualités qu'on va développer aussi, bienveillance, compassion et autres, et aussi s'interroger, comme on le fait ici, sur ce qui domine, ce qui fait qu'on choisit, lentement, décrédibiliser cette croyance en moi, qui fait que, dans le cheminement spirituel, par moment, imaginez que il n'y aura plus ce moi, il n'y aura plus cette identification à l'élément dominant, même si c'est le désir et autre. Si maintenant il n'y a plus d'identification, à ce moment-là, un point important, pas si simple, l'identification, si c'est « je veux manger ce morceau de gâteau », eh bien s'il n'y a plus d'identification, l'identification c'est ce qui rassemble toute l'énergie dans un sens. S'il n'y a plus d'identification, à ce moment-là, il y a le désir. Mais je ne suis pas, ou si vous voulez, l'esprit ne me suit pas. Parce que l'identification, elle rassemble toute l'énergie disponible de la conscience autour de ce à quoi nous nous identifions. Donc on voit la complexité de cet enchaînement d'interdépendance. Mais ça me semble important d'explorer ça dans la vie quotidienne. Du tout faire le tour du problème, il y a tellement d'aspects, mais ce qui me semble quand même intéressant, c'est que, j'essaie de réfléchir, mais si, voilà, si j'ai une addiction au sucré, pour rester dans mon histoire de gâteau, on va prendre les addictions plus compliquées, telles que l'alcoolisme et autres, mais, ou le tabagisme, même ça pourrait quand même jouer, c'est que, si j'essaie, je crois, dans ce mouvement où je sens que la gourmandise est la plus forte et j'essaie d'avoir une volonté qui va à l'encontre, alors j'ai l'impression que c'est un peu sans espoir parce que ma volonté va contre ce qui est dominant. Et peut-être que si je me rendais compte que dans le fond, c'est pas finalement je veux ce morceau de gâteau, de faire une indigestion de ce morceau de gâteau, mais c'est pas ceci. Mais si je me rends compte, c'est simplement, c'est pas ce que je veux, c'est simplement l'élément qui a le plus d'énergie. C'est simplement l'élément qui est le plus fort. C'est pas nécessairement l'élément qui me définit, mais c'est simplement l'élément qui est le plus fort à ce moment-là. Est-ce que j'ai besoin de choisir à ce moment-là, amène un peu de sagesse, est-ce que c'est cet élément-là auquel j'ai besoin de m'identifier, de prendre pour ceci? Est-ce que je vais mettre mon énergie, toute mon énergie dans ceci, simplement parce que ça semble être l'élément le plus intense? Vous voyez, pas en voulant choisir, mais en voulant une volonté inverse qui fait que c'est compliqué, et que finalement, eh bien, on va quand même le faire, mais de se dire, c'est simplement, l'énergie est la plus forte là, dans la gourmandise, mais je ne suis pas obligé de suivre l'élément qui est le plus fort. Donc on pourra dire, qu'est-ce qu'il dit, je ne suis pas obligé, etc. Mais c'est l'élément de sagesse qui, lentement, va aussi ouvrir, prendre compte de cette situation. Voilà, je vais finir par une petite anecdote, parce que c'était déjà assez dense comme ceci, puis vous laissez discuter un petit peu, débattre, enfin, amener un peu de clarté là-dedans, mais... Je ne sais pas dans quel sutra ça apparaît, dans un texte plus tardif, mais il semble que Ananda fasse l'éloge de Sariputra et Moggayana dans leur manière d'expliquer la chaîne des 12 liens, en disant vraiment c'est remarquable la clarté avec laquelle on peut expliquer ceci, vraiment c'est remarquable. Et le Bouddha donne un conseil à Ananda, il dit, il n'ira pas toujours des maîtres comme Sariputra Moggayana, il n'ira pas toujours des gens aussi compétents pour l'expliquer. Il lui dit, alors fais un tableau, l'image de la roue de la vie, avec sur la circonférence les 12 liens d'interdépendance. Il dit, fais faire ceci. Donc on a, c'est assez amusant d'ailleurs, les artistes trouvent une sorte de cautionnement. Et en fait, cette manière de représenter les 12 liens sur la jambe de la roue de la vie, on trouve évidemment beaucoup dans la tradition tibétaine. Moi, je pensais que c'était quelque chose d'un peu plus tardif. Les Tibétains sont extrêmement habiles à utiliser les supports graphiques pour exprimer le dharma. Mais... j'ai trouvé dans une grotte Ajanta, j'ai trouvé, elle est là sur un mur, hein, j'ai rien découvert de particulier, mais j'ai été surpris de voir sur un mur à Ajanta, donc des peintures qui datent, je ne sais pas, du 5e siècle, peut-être 6e siècle après Jésus-Christ, de découvrir qu'il y avait là une roue de la vie. Déjà à ce moment-là, donc cette manière de représenter ces 12 liens est extrêmement ancienne. Voilà, pendant la pause haute, j'essaierai de vous mettre une représentation de cette roue de la vie pour que vous puissiez la voir. Et aussi, je vous montrerai peut-être pendant la pause les 12 liens, comme ça, si vous voulez les écrire, vous pourrez les écrire. Voilà, donc c'est aborder de manière élaborée et à la fois extrêmement brève cette chaîne d'interdépendance, parce que c'est quelque chose d'immensément riche, mais je crois qu'il peut aussi nous donner certaines pistes, comment essayer de se désengager de ce conditionnement. Voilà, donc je... Voilà, maintenant, je vous propose de diviser à nouveau en petits groupes pour... pour discuter. Donc c'est déjà 11h. On va peut-être faire 45 minutes de discussion. Ensuite, je vous proposerai une petite pause et puis ensuite on passera aux questions-réponses. Donc je vais vous répartir en petits groupes. Alors.